Pas d'affolement. Nous voilà. Pas d'affolement.
Nous voilà.
Pas d'affolement.
Nous voilà.
Bonjour, nous sommes bien sur l'émission Pas d'affolement, nous voilà. C'est la 50e aujourd'hui. Vous pouvez nous entendre sur 98.4 REM. Radio Entre deux Mers.
Voilà, pas de personnes présentes. Zéline, Philippe, Cynthia, Ophila, Brigitte, Béatrice, Marie, Christelle, Français à la technique et moi-même au Sud.
Voilà, et comme invité aujourd'hui, nous avons Jean-Louis Clément, un cadre infirmier à Falré, tout juste retraité depuis très peu, depuis hier. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Alors que signifie, la première question qui coule de sens, que signifie le métier de cadre de santé?
Ouais, c'est une vaste question.
Mais intéressante.
Oui, c'est une belle aventure humaine. Être cadre de santé, effectivement, c'est d'abord apprendre à se connaître soi pour essayer d'accompagner. D'abord, j'ai été infirmier, donc d'abord essayer d'accompagner effectivement les personnes en soins qui sont en souffrance du mieux possible. Et puis après, je crois que en tout cas, la conception que je me fais du métier de cadre de santé, c'est que comme je peux demander, j'ai pu demander aux équipes effectivement de prendre soin des patients. Et je pense que pour qu'elle soit en capacité, qui plus est aujourd'hui dans le milieu hospitalier tel qu'on le connaît, les médias en parlent tous les jours, il faut que le cadre de santé prenne soin des équipes. Alors je suis un peu un cadre atypique parce que effectivement je n'ai pas été formé aux méthodes managériales. J'ai eu la chance effectivement d'avoir une formation dans les années 95 et une formation sciences humaines. Et je ne suis pas un manager, je ne suis pas... Enfin, je fais ce travail-là aussi de gestionnaire, de cahier de bord, etc. Mais avant tout, ce qui me porte et ce qui me préoccupe, effectivement, c'est les relations humaines. Voilà. Et le contact aussi avec des personnes comme vous.
Ouais. Quel est votre parcours professionnel?
Mon parcours professionnel, je dirais que je suis arrivé en psychiatrie par hasard, puisqu'à l'époque, les études étaient... était rémunéré pour devenir infirmier de secteur psychiatrique. Et j'avais 17 ans quand je suis arrivé à l'hôpital, donc je connaissais pas grand-chose de ce métier. Et puis je l'ai pratiqué après en tant qu'infirmier. J'étais formé à Cadillac, donc il y avait encore un centre de formation à Cadillac. Je l'ai pratiqué pendant 16 ans à l'unité pour malades difficiles, l'unité qu'on appelait à l'époque localement l'asile des fous dangereux. Et j'ai rencontré beaucoup d'humanité aussi là, des gens qui étaient des professionnels qui n'avaient pas la formation que j'avais eue, puisqu'à l'époque c'était des infirmiers habilités, hein, puisque la formation d'infirmiers en psychiatrie était très récente. Mais ces personnes-là, j'ai eu des contre-exemples, mais j'ai aussi beaucoup de personnes effectivement qui... avec leur bon sens et leur chaleur humaine, m'ont montré effectivement ce que c'était que s'occuper d'une manière bienveillante des personnes qui sont en fragilité. Et puis à l'UMD, donc, j'ai mis en place, j'ai eu la chance effectivement d'avoir un parcours professionnel que j'ai pu construire avec mon désir aussi. Donc à un moment donné, j'ai mis en place 3 ou 4 ans après y avoir embauché, un atelier maquette. C'était assez atypique, un club maquette, c'était assez atypique, puisqu'à l'époque, ce n'était pas un atelier, donc il n'y avait pas de pécule. Les personnes en soins adhéraient, versaient une adhésion. Et je suis assez fier parce qu'on a collaboré avec le club maquette de Langon à l'époque qui existait. Et je ne sais pas si vous n'avez pas invité ici M. Gergérès il y a quelques années, le musée des allumettes de Fontaine. Voilà. Il fait partie des personnes qu'on a invitées à l'UMD puisque j'ai eu la chance de, en me battant institutionnellement contre la hiérarchie et avec, en allant chercher l'appui du directeur, à faire en sorte que les portes de l'UMD s'ouvrent pour la première fois au grand public. Pour visiter les expos maquettes que l'on, deux années de suite on avait fait des expos maquettes au sein de l'UMD et le premier invité effectivement c'était M. Gergérès, c'était une belle personne aussi. Après au bout de 15 ans je crois que j'avais fait un peu le tour de la structure, c'était très intéressant le travail mais c'est une structure quand même très fermée, très, très contenante, très, très maternante, j'avais besoin d'un peu d'espace de liberté. La seule façon que j'ai trouvé de m'en évader entre guillemets c'est de faire la formation cadre. Donc j'ai fait la formation cadre, après je vous passe certains détails institutionnels, mais il a fallu que j'attende 5 ans avant d'être nommé, mais c'était intéressant puisque j'ai pu du coup effectivement apprendre le métier de soignant dans l'extra-hospitalier, c'est-à-dire non plus dans une unité d'admission, mais sur les CMP, donc accueillir effectivement les personnes qui vivent après dans l'environnement sociétal, familial, quotidien, etc. J'ai pu aussi mettre en place des activités dans des CATTP. Et puis après, j'ai vécu une très belle aventure professionnelle à l'unité Verneuil, puisque j'ai été nommé cadre en 2002, jusqu'en 2011. Et effectivement, il y a encore parmi nous effectivement, des personnes que j'ai eu la joie de rencontrer quand je... voilà, je parle avec beaucoup d'émotion de mon métier aussi parce que...
Une vie bien remplie et
oui,
un métier bien rempli.
Simplement, je voulais dire qu'à Verneuil, effectivement, on a essayé de mettre en place, même si on n'est pas arrivé, un concept du soin particulier qui est porté par les théories de la psychothérapie institutionnelle. Ce qui veut dire, vite résumé, c'est que chacun dans une communauté de soins, effectivement, de sa place, peut avoir une fonction soignante, que ce soit le cuisinier, que ce soit... l'ASH, que ce soit le pharmacien, etc. Alors ça ne se décrète pas, ça se construit. Et c'est toute cette part d'humanité, là, effectivement, qu'on a essayé de faire vivre et de porter et qui est extrêmement intéressante et urgente à continuer, effectivement, à faire vivre aujourd'hui. Parce qu'on ne peut faire du soin qu'avec des humains et de la relation humaine. Je suis un peu long, là, peut-être.
Non, c'est très intéressant, en tout cas.
Qu'est-ce qui a motivé votre choix au départ et puis maintenant?
Mon choix, eh bien, c'est pas la vocation, comme je vous disais, c'est uniquement parce que les études étaient rémunérées. Voilà, j'avais 17 ans, c'est vrai que je me cherchais un peu, je voulais pas faire un parcours scolaire long. Je connaissais des gens, effectivement, qui avaient fait la formation d'infirmier, et j'y suis allé vraiment en terre inconnue. Et je ne regrette pas un moment ce choix-là, parce que j'ai pu m'épanouir jusqu'à hier encore que je travaillais professionnellement. J'ai vraiment un sentiment d'utilité et je me suis vraiment enrichi avec moi ce que j'appelle la folie douce, c'est-à-dire effectivement la folie que l'on a tous un peu en nous, mais effectivement après de manière exacerbée pour les personnes dont on demande de s'occuper, mais c'est, pour moi c'est une folie saine et constructive où il y a de l'humain et qui va... Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une folie effectivement institutionnelle. Hein, qui... J'ai peut-être un discours militant et politique, mais effectivement, l'hôpital n'est pas une entreprise que l'on gère uniquement autour de la finance. Il y a des humains.
Oui. Et la dernière question, on va vous poser. Si vous avez un regard sur l'évolution psychiatrique, que ça a évolué, la psychiatrie, oui. Votre regard, votre oui. Vision, c'est comment maintenant?
Alors, je ne veux pas avoir un discours de...
Révolutionnaire.
De vieux, je n'irai pas plus loin.
Ancien combattant.
J'ai passé une dernière année difficile et j'ai eu la chance d'être accompagné par des professionnels que je remercie encore, qui m'ont aidé à réfléchir à tout ça. Et finalement, je ne veux pas partir avec une vision négative. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont là aujourd'hui et le fait que cette émission existe, vraiment des gens qui portent des valeurs essentielles dans ce métier et encore une fois autour de l'humain. Et en côtoyant des étudiants qui vont choisir ce métier, je m'aperçois aussi qu'il y a des gens qui ont vraiment un mode de pensée et de conception de ce métier qui est tout à fait saine. Donc ce que je dirais, c'est qu'il y a on vit actuellement dans une société un peu folle, effectivement, où la finance prend le dessus. Mais il y a plein de petites graines d'humanité qui sont semées et je pense qu'il y a un terrain fertile et que de toute façon, ça reviendra un jour.
Valérie qui va
merci.
Passer à autre chose.
Merci.
Merci Jean-Louis.
Maintenant, nous allons écouter une interview d'Isabelle Bessia faite par moi. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en présence d'Isabelle Bessia pour l'interroger sur sa profession. Quelle est votre profession, Isabelle ?
Je travaille au Musée des Beaux-Arts, je suis chargée de la médiation institutionnelle.
Depuis combien de temps travaillez-vous au Musée des Beaux-Arts et quelles études avez-vous fait ?
Alors, je travaille au Musée des Beaux-Arts depuis 16 ans, ça va même faire 17 ans au mois de mars, et j'ai fait des études d'histoire de l'art, j'ai un doctorat d'histoire de l'art, après avoir un peu fait des études de langues étrangères appliquées, mais vraiment, je suis docteur en histoire de l'art, ça c'est vraiment les études que j'ai menées le plus longuement.
Comment vous est venue l'idée d'étudier les arts ?
Alors, depuis l'enfance, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé visiter les musées, les villages, les villes. Donc, j'ai eu une passion pour l'art, le dessin, la peinture, la photographie et pour la découverte des arts en général.
Combien de secteurs artistiques y a-t-il ?
Alors, dans un musée, il y a beaucoup de métiers. En fait, au Musée Beaux-Arts, par exemple, il y a une quarantaine de personnes qui travaillent. Il y a des surveillants, il y a des gens qui s'occupent de la régie, des conservateurs. Il y a des gens qui sont administratifs, il y a des gens qui s'occupent de monter les expositions, de les démonter, de peindre les murs. Voilà, c'est différents métiers, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de professions dans un musée. Et la mienne consiste vraiment à être face au public et face aux œuvres.
Que propose le Musée des Beaux-Arts en dehors des expositions permanentes ?
Alors, le Musée des Beaux-Arts propose aussi à la Galerie des Beaux-Arts des expositions temporaires qui se déroulent une ou deux fois par an et qui permettent de découvrir soit un thème ou un artiste.
Quelles sont les périodes les plus souvent exposées ?
Alors, il n'y a pas de période plus souvent exposée. Le Musée des Beaux-Arts, déjà, il a une collection permanente qui va du XVIe siècle à la non-figuration. Et il y a un accrochage qui est modifié avec le temps, avec un roulement de la présentation des œuvres. Et à la Galerie des Beaux-Arts, ça dépend du thème. On peut parler de toutes les époques, en fait.
Pour reprendre ce que vous faites au Musée des Beaux-Arts, pouvez-vous nous expliquer votre fonction ?
Alors, ma fonction, c'est de développer des partenariats entre le musée et les institutions, par exemple avec les hôpitaux, les centres pénitentiaires, avec les institutions de la ville, les musées, les opéras, le conservatoire, les bibliothèques, et également d'aller hors les murs. Hein. Donc, dans mes missions, je suis face au public et en même temps, dans les salles, j'organise une animation par rapport au musée et je vais aussi hors les murs.
Pouvez-vous nous parler de ces partenariats, par exemple le partenariat avec l'hôpital de Cadillac ?
Alors l'hôpital de Cadillac, en fait, c'est un partenariat qui existe depuis plus de 4 ans. C'est un partenariat très intéressant puisque je me déplace une fois par mois à Cadillac pour animer un atelier en compagnie des soignantes de l'hôpital. Et on organise une exposition par an, une fois au musée, une fois à l'hôpital de Cadillac. Et ce partenariat est intéressant puisque on travaille sur des ateliers où on parle d'une œuvre ou d'un artiste et ensuite il y a une création. Et donc c'est tout un travail de réflexion et d'échange autour de l'art.
Que développez-vous avec les patients et les détenus au travers de votre travail ?
Alors, on développe souvent un thème. Quand j'arrive, je n'arrive pas avec une œuvre d'art, mais avec des reproductions, évidemment. Et on parle de l'artiste, du thème. C'est d'abord un dialogue qui se met en place. Et après, on fait des ateliers terre, de l'argile, ou alors des coupages, des collages, de la peinture. Enfin, c'est plusieurs moyens d'expression qui sont proposés. Il y a un thème pour chaque séance. Et donc c'est très varié, ça permet d'étudier un courant artistique ou un peintre ou une idée. Voilà.
En ayant cette démarche, que cherchez-vous ?
Alors je recherche les échanges et surtout d'apporter un peu de liberté, un peu d'ouverture dans les journées. Alors je dis liberté parce que je parle de la prison où les gens sont quand même enfermés dans leurs cellules et c'est vrai que d'avoir un atelier...
Peut-être aussi une authenticité.
Oui, voilà, et c'est vrai que ça apporte beaucoup aux gens, ils me le disent. Et puis au musée aussi, c'est très intéressant d'avoir cet échange avec l'extérieur et de voir à quel point les œuvres d'art suscitent de l'intérêt, de la curiosité et parfois de l'émerveillement.
Cette façon d'ouvrir l'art à ceux qui en sont privés, est-ce une démarche de la Nouvelle-Aquitaine ?
Oui, ça correspond aux nouvelles politiques, puisque au niveau du ministère, hein, il y a eu un nouveau label qui a été mis en place, le label Musée sort de ses murs. Et je suis très heureuse puisque le Musée des Beaux-Arts l'a obtenu avec un projet sur le thème de la liberté. Donc c'est un prestigieux label, le musée sort de ses murs. Il y a eu en tout 13 musées sélectionnés en France et deux en Nouvelle-Aquitaine, Mont-de-Marsan et Bordeaux. Donc puisque nous avons travaillé sur un thème, la liberté, le projet que j'avais présenté a été retenu par le ministère. Donc c'est vrai que c'est très satisfaisant de voir que le travail qu'on mène avec plusieurs institutions, l'hôpital Charles Perrin, Cadillac, Lormont et Cadillac, et le centre pénitentiaire de Gradignan. Tout ça a mené une belle réussite puisqu'on a pu faire une exposition au musée qui présentait les créations des patients et des détenus.
Avez-vous une passion artistique ?
Alors oui, j'aime beaucoup le dessin, la photographie, la peinture et un petit peu le modelage aussi. C'est vrai que j'aime bien moi-même pratiquer tout cela.
En période artistique de peintre, quelle est l'époque que vous préférez ?
Alors en fait, j'ai fait une thèse sur un sculpteur ornementaliste du 19e siècle, mais j'aime beaucoup le 19e siècle, mais après je me suis intéressée à toutes les périodes artistiques et tous les courants artistiques de l'histoire de l'art, puisque je présente des œuvres au musée qui vont de la Renaissance jusqu'à la non-figuration. Donc en fait, chaque personne, chaque artiste et chaque période m'intéresse. Mais j'ai quand même un petit intérêt particulier pour le 19e, puisque j'ai beaucoup travaillé sur cette période. Et puis c'est intéressant aussi d'approfondir plus un moment qu'un autre. Et le 19e, et notamment dans l'art religieux, a souvent été méprisé. Donc le fait de faire découvrir et de laisser une trace sur le passé et l'histoire, c'est très intéressant.
Avez-vous un maître penseur ?
Non, pas vraiment. En fait, dans mon travail, ce serait plutôt le public qui entraîne mes actions, puisqu'en général, je pense toujours à cela. Je travaille avec des aveugles, avec des malvoyants, avec des handicapés, avec un public aussi qui vient aux visites traditionnelles du musée. Donc, vraiment, c'est l'idée d'échanger autour des œuvres qui engendre chez moi une réflexion et une passion. Voilà.
Maintenant, c'est ma dernière question. Pouvez-vous nous parler de si vous êtes allé à l'étranger et ce que vous avez fait ?
Alors j'ai en fait, voyagé aux États-Unis puisque je fais partie, en fait, avec tous mes collègues, c'est le Musée des Beaux-Arts plutôt qui fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau FREM et je fais partie donc d'une réflexion depuis plusieurs années puisque les musées des Beaux-Arts et les français pour certains et les musées américains se sont réunis dans ce réseau qui permet une confrontation des pratiques en matière de médiation ou d'exposition. Et j'ai mis en place un partenariat avec une américaine qui est professeure de français aux États-Unis. J'ai rapproché le musée des Beaux-Arts de Richmond et celui en Virginie et celui des musées des Beaux-Arts et un collège bordelais d'un collège américain. Donc ce partenariat a permis en fait à des jeunes d'échanger autour de l'art puisqu'ils ont visité leur musée, parlent des œuvres de leur musée et ensuite échangent par internet au sujet des œuvres qu'ils ont vues. Donc c'est à la fois un échange linguistique artistique et ce partenariat avec l'étranger est devenu un projet pilote que d'autres musées peuvent appliquer. Par exemple, le musée de Tours, maintenant, a un tel échange aussi avec l'étranger. Donc, tous les deux ans, je vais aux États-Unis pour parler de ce projet pilote, mais aussi pour voir comment je peux développer d'autres partenariats. Et en 2021, je serai chargée d'une exposition à la Galerie des Beaux-Arts qui s'appelle la Galerie Tactile, qui est une galerie qui, justement, permettra au public de toucher les œuvres, les sculptures. Et ce sont les musées du réseau FREM qui ont fait des reproductions de leurs sculptures, qui vont voyager ainsi dans plusieurs villes de France.
Pour le public, pouvez-vous nous conseiller un site pour voir comment visiter le musée des Beaux-Arts, les manifestations qu'il y aura ?
Oui, alors le musée des Beaux-Arts a un Facebook, mais aussi un site officiel, c'est Musba, où tout est écrit. Donc si on veut par exemple faire une visite au musée ou venir faire un cours de dessin, un atelier modelage, il suffit juste de regarder le site du musée. Il y a une partie qui s'appelle Agenda, où il y a jour par jour tout ce qui se passe au musée, puisqu'il y a aussi des concerts, il y a les journées du patrimoine, la nuit des musées, il va y avoir la soirée étudiante. Il y a beaucoup d'événements qui se passent au musée. Donc il suffit de regarder le site, tout est écrit dessus. On annonce aussi les expositions.
Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Merci beaucoup et j'ai passé un bon moment.
Maintenant, Gueulin a choisi un morceau de musique Alpha Blondie Cigarette.
Mmh. cigarette. Faut que j'arrête la cigarette. Je me tue à petit feu. Il faut que j'arrête.
Comme un suicide programmé, ma vie s'en va en fumée. C'est une question de volonté. Seul Dieu peut me sauver.
De retour dans les studios de Radio Entre-deux-Mers 98.4 pour l'émission Pas d'affolement, nous voilà. Avec aujourd'hui notre invité Jean-Louis Clément, cadre infirmier tout juste à la retraite, qui répond à nos questions.
Moi, je suis à vous dire, Jean-Louis Clément, que j'étais très heureuse de vous rencontrer à Verneuil. Ça fait maintenant 10 ans, 15 ans pratiquement de ça. Et vous m'avez mis en confiance. Vous êtes l'un des rares à m'avoir mis en confiance. Je me rappelle que j'allais vous voir pour demander des choses à ma curatrice et vous me facilitiez les choses. Donc ça fait bizarre parce que ça fait pas mal d'années qu'on ne s'est pas revus. Et on va revenir à l'émission quand même. Au niveau culturel et associatif, vous avez été actif. Pourriez-vous nous parler de vos engagements associatifs ?
Mes engagements personnels ?
Oui.
Je peux vous parler. Bon, j'ai commencé mon engagement associatif à l'âge de 16 ans dans un petit village qui s'appelle Saint-Pierre-de-Mons au niveau de la Société des Fêtes. Et c'est un peu paradoxal, mais on a mis en place les voyages du troisième âge en même temps. Donc c'était intergénérationnel. Et puis après, je suis passé par les parents d'élèves quand j'ai eu mon gamin en âge de scolarité. Et puis après, il y a eu le travail et... justement, l'époque de Verneuil est quand même une époque pour moi qui compte beaucoup dans ma vie. Et à un moment donné, on s'est questionné à Verneuil parce qu'il y avait quand même une manière assez péjorative dans la cité de Cadillac sur la manière dont certaines personnes appréhendaient la vie au quotidien avec les personnes en soins de l'hôpital. Et on est un groupe de soignants de Verneuil qui sommes réunis pendant une dizaine de mois à l'extérieur dans un bar, une fois par semaine le soir, et ça aboutit à la création de l'association Les Passerelles.
Oui, j'en ai entendu parler.
Voilà, l'association Les Passerelles, donc, qui avait deux objectifs. Le premier, c'était par le biais effectivement de la culture, d'essayer de démystifier l'image du malade mental et de faire du lien effectivement dans la cité, entre les habitants de la cité et puis les personnes en soins. Et le second volet, c'était le volet formation pour les professionnels. Et une des premières, le fil conducteur des passerelles pendant les 7 ou 8 ans dont elle a fonctionné sur ce mode-là, puisqu'aujourd'hui cette association existe, mais ce n'est plus les membres de notre objectif, mais enfin le fil conducteur, ça a été le printemps des poètes, dont l'idée symboliquement, c'était dans la salle du conseil municipal, vous y avez participé, Valérie.
Oui, aussi, oui.
C'était qu'il y ait le public, les personnes, la communauté humaine qui était intéressée par la poésie, se rencontrer effectivement et déclamer des poèmes. C'était vrai, des moments très... Moi, j'ai vécu des moments très, très émouvants. Et une autre des manifestations phares, ça a été Cadillac mélange les pinceaux, dont l'idée, là aussi, c'était de faire se rencontrer les gens autour de la peinture. Donc, c'était sur un week-end, il y avait un concours de peintres dans la rue. Donc, il y a une personne en soins, une année d'ailleurs, qui a remporté le concours. Et l'idée, c'était de faire participer dans des ateliers associatifs de la cité et de faire participer les personnes aussi qui étaient dans les ateliers d'art plastique de l'institution. Et c'était très intéressant parce que la démarche aussi, donc il y avait un lieu d'exposition qui était sous la halle de Cadillac, il y avait le cinéma, il y avait l'office de tourisme, il y avait le directeur de l'époque, M. Lafort, qui a beaucoup fait pour la culture, qui avait ouvert les portes de l'hôpital. Donc ça a permis au public de rentrer dans l'hôpital. Il avait offert aussi tous les bureaux de l'administration pour que l'on expose effectivement les œuvres. Donc il y a vraiment une porosité entre la cité et l'hôpital. Et on avait demandé aux commerçants qui voulaient des œuvres, effectivement, que ce soit les personnes en soins, qui aient accroché les œuvres. Donc vraiment, il y a eu une rencontre qui s'est créée. Enfin, la démarche était très intéressante. Après, c'est quelque chose à nourrir, à faire vivre en permanence. Hein. Mais voilà, c'était une vie associative assez intéressante. Et puis maintenant, je cherche une vie associative, effectivement, qui permettra de canaliser un peu mon énergie et mon mécontentement par rapport à l'évolution de notre société, pour canaliser tout ça de manière positive. Donc autour de l'écologie... Et puis de la transmission auprès de la jeunesse, puisque j'ai une petite fille. Donc voilà, je n'ai pas encore trouvé la piste.
Félicitations.
Merci beaucoup.
Brigitte.
Oui, monsieur, je voulais vous demander pourquoi vous orientez votre choix vers l'art et la culture.
Bien, parce que je pense que la culture, c'est le langage des émotions. Alors je m'attendais un peu à avoir cette question-là, une question similaire, et j'avais... prévu d'amener une citation de Jacques Salomé, mais je l'ai oubliée dans la pièce à côté, elle est dans mon manteau, donc je ne vous la dirai pas. Mais les émotions, je pense que d'abord, il ne faut pas s'en cacher quand on a des émotions, c'est quand même l'expression de notre humanité. Et la culture, effectivement, c'est le langage des émotions, c'est-à-dire que quelle que soit dans notre culture liée à notre lieu de naissance, à notre mode de vie... à nos moyens, etc. La culture, c'est ce qui réveille encore une fois les émotions et qui nous permet de communiquer entre nous. Enfin, c'est le mode de communication, je dirais, primaire, basique et essentiel de l'humain. Et autour de la culture, tout le monde peut se réunir, quelle que soit la couleur de notre peau, quelles que soient nos convictions politiques et quels que soient nos engagements.
Ça évolue aussi, la culture.
Oui, la culture, elle a beaucoup évolué.
Ça évolue sur soi-même.
Oui, tout à fait. Oui.
D'expérimenter la culture.
Ah, mais c'est une manière aussi d'apprendre à se connaître. Mais vous savez de quoi vous parlez, Valérie, puisque vous êtes. Je connais vos talents de peintre.
Oui, sur différents niveaux d'humeur, on dira.
Mais c'est une manière aussi, effectivement, de. Par exemple, moi, j'ai découvert que j'avais une couleur dominante. Rien que ça, c'est par là aussi, par rapport à soi, par rapport aux autres, etc. Et puis plein d'autres choses, effectivement. Mais on se découvre autour de la peinture, comme moi j'ai pu me découvrir aussi autour de ces 40 années passées dans ce métier. Parce que essayer d'accompagner les autres, c'est avant tout essayer de se comprendre aussi. Ben voilà, j'ai l'impression d'être un peu long des fois, donc n'hésitez pas à me freiner.
Nous sommes à la 50e émission.
Une autre question là. Quelle est la place de la culture sur la santé ?
Ah, moi, je crois que c'est essentiel. Je crois que la rencontre, effectivement, entre le monde de la culture, les artistes qui sont dans la créativité, et puis le monde, effectivement, de la souffrance psychologique, et puis le monde des soignants aussi, parce que pour être soignant aujourd'hui, ce que je tenais à dire, c'est que c'est un métier d'art, être soignant. C'est, voilà, il faut se connaître, comme je disais tout à l'heure. Et la relation, ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de compréhension et beaucoup de créativité, comme dans l'art. Et ce qui est bien, effectivement, avec le projet culturel que M. Lafort avait mis en place et accompagné par M. Almandou, c'est qu'à un moment donné, il y avait donc l'intervenant, le professionnel du spectacle, et puis il y avait les personnes en soins et les soignants. Et à un moment donné, le metteur en scène, ce n'était pas un soignant, il avait les mêmes exigences pour tout le monde. Et je crois qu'effectivement, c'était intéressant parce que soignant ou soigné, à un moment donné, plutôt que d'être en relation frontale, oui, comme ça peut être au quotidien, oui, vous vous êtes retrouvés côte à côte. Et ça modifie considérablement beaucoup de choses du soin. Et c'est essentiel pour moi. Oui.
Merci Jean-Louis.
À Vernet, j'étais très à l'écoute. Hein.
Ouais. C'était très intéressant, Jean-Louis. Et avec Valérie, ils se sont bien disputés le micro. Et alors, nous avons Azedine qui va nous parler.
Bonjour, chers auditeurs de REM. Maintenant, chers auditeurs, nous allons écouter mon opinion sur l'affaire Boubacaris.
Bonjour amis auditeurs, je suis en présence d'Azedine. Azedine est un jeune garçon plein d'ambition et à la pointe du progrès et surtout de l'actualité. Il va nous parler du petit clash qu'il a eu entre Booba et Caris, qui sont ses passions à lui. Bonjour Azedine, alors on t'écoute sur ce clash.
Bonjour. Bonjour les auditeurs. Donc du coup, oui, comme vous avez dit, il y a un clash entre Booba et Caris, mais il y a eu un nouveau clash entre Booba et Seth Gecko. Et ce que je me demande, c'est, je me demande vraiment, est-ce que c'est, j'en suis sûr même maintenant au jour d'aujourd'hui, j'en suis sûr, ma mère avait raison, que c'est écrit ces clashs. Parce que c'est pas possible qu'il a autant d'ennemis. Je peux même pas vous citer les nombres de clashs, c'est énorme. Il y en a vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai commencé au début, quand j'ai connu le clash entre, j'ai l'ai connu entre Booba et La Fouine. Mais après, je me suis dit, ouais, il a commencé à attaquer tout le monde, donc je me suis dit, ouais, ça date du pipeau.
Alors, on va rappeler quand même, en quelques mots, ce qui s'est passé au départ avec ce qui s'est passé à l'aéroport.
À l'aéroport, au début, je ne comprenais pas pourquoi ils sont allés en ITT. Pourquoi Booba était allé en ITT et que la Caris aussi, ils se sont fait enfermer. Et après, c'est ma mère qui m'a dit, ouais, parce qu'ils ont tout cassé. Donc, du coup, parce qu'on précise bien que les journalistes sur BFM TV, ils ont dit, personne n'était blessé. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi ils l'ont enfermé? Et c'est ma mère qui m'a dit, oui, voilà, ils ont tout cassé, ils doivent repayer. Donc, je sais pas. Enfin, Booba a les moyens, mais Caris, je pense pas. Booba, il a une radio, une chaîne télé. Donc, du coup, je pense pas, en tout cas.
Alors, si j'ai bien compris, tu as enfin compris que c'était un scénario comme au cinéma. Hein, il y a eu un scénario et après, ça a été filmé.
Mais bien sûr, mais déjà sur le clash, déjà, je me suis même fait avoir par Michael Lune et Stéphane Rousseau, qui n'est pas des rappeurs. Moi, je croyais que Stéphane Rousseau était vraiment, c'est Chris Prolls et que Michael Lune était Fatal Bazooka. Mais ma mère m'a toujours dit, mais j'ai pas écouté, mais ma mère a toujours dit que c'était pas son métier, que c'était de l'humour. C'est là où ça a commencé à le clash. Déjà, j'ai su Super Clash, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser, j'ai dit qu'est-ce que c'est que le clash. Au début, je ne connaissais pas ça. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que le clash. Je suis allé chercher sur internet et j'ai trouvé ce que c'était. Donc du coup, c'est là où je me suis dit ça a l'air bien.
Alors maintenant, ma dernière question, ouais, est-ce que tu continues à écouter Booba et Caris?
J'écoute les deux. Il y a pas, j'écoute les deux. Il faut écouter les deux. De toute façon, ça sert à rien. Ils font du pipeau. C'est pour vendre leur CD. Mettez-vous bien ça dans la tête. Moi, pareil, j'avais pas ça dans la tête. C'est du pipeau. Eux, c'est pour vendre Uncut. L'autre, c'est pour vendre, je sais plus, Dezo, je sais pas comment ça s'appelle sa marque. Vous verrez sur internet, à Caris. Et j'écoute les deux.
Merci, Azedine.
Maintenant, un peu de poésie avec deux textes d'Arca, un texte de Joël et les Fables de La Fontaine par Guilin.
La forêt et le bûcheron. Un bûcheron venait de rompre ou d'égarer le bois dont il avait emmanché sa cognée. Cette perte ne put sitôt se réparer, que la forêt n'en fut quelque temps épargnée. L'homme, enfin, la prit humblement, de lui laisser tout doucement emporter une unique branche, afin de faire un autre manche. Il irait employer ailleurs son gagne-pain. Il laisserait debout main de chêne et main de sapin, dont chacun respectait la vieillesse et les charmes. L'innocente forêt lui fournit d'autres armes. Elle en eut du regret, il en mange sans faire. Le misérable ne s'en sert qu'à dépouiller sa bienfaitrice de ses principaux ornements. Elle gémit à tout moment, son propre dent fait son supplice. Voilà le train du monde et de ses sectateurs. On s'y sert du bienfait contre les bienfaiteurs. Je suis las d'en parler, mais que 12 ombrages soient exposés à ces outrages, qui ne se plaindraient là-dessus. Hélas, j'ai beau crier et me rendre incommode, les gratitudes et les abus n'en seront pas moins à la mode.
Pas d'affolement. Nous voilà. Bonjour, c'est Joël. En revenant sur Radio Entre-deux-Mers, je vais vous décliner un poème sur la Saint-Valentin. Valentino Sunshine. Si l'on veut pourtant plaire et partir pour offrir une place en continu, une trace en l'absolu. Sur le vif de l'extrême, je t'emmène si tu m'aimes, et je passe quelquefois la raison qui s'envole. Je m'en vais, mais ma foi, un baiser je te vole. Expression de l'azur, les étoiles se perdent, je ne suis plus très sûr de mes vers qui s'évadent.
Pas d'affolement. Nous voilà.
Message. Mes marées, naufrages, j'écris, dis, afin que mon cœur beau n'ait d'arythmie quand il fait haut dans ma vie. Afin que mes fardeaux, chaos, myopie, vil et taux, ne vous soient pis, atrophie, charpie, charpie. Mes regrets, voyages, j'écris, dis, afin que l'amour beau en moi enfoui reste flambeau, infini. Afin que sous ma peau, ma poésie, dans ghetto, ne vous soit cri, asphyxie, aussi, aussi. Tout message je propage jusqu'à vous, mes chéris, quand il le faut, jusqu'à autrui. L'impuni. J'y rêvais qu'il était à genoux. Le pardon, il implorait pour tout. La faim, l'errance, chagrin, courroux, vilenie, avouant tout d'un coup. Je l'ai vu regretter après coup, hagard, en frisson, crispé à bout, mes petits mots. J'y rêvais qu'il était mange-tout, un glouton démesuré en tout, déclin, déviance, enclin tabou, tricherie tout traînant dans la boue. Je l'ai vu se vautrer sous verrou, mort, par pendaison, criblé de trous, mes petits mots. L'impuni harcèle jour et nuit, tant qu'il est en vie. L'impuni, criminel est, un puits de vils ennemis. Mais l'amour pur qui nous lie, pour toujours est paradis, mes petits, infini.
Des bien beaux poèmes. Pour moi, ça ne sera pas les poèmes, ça sera bientôt la Chandeleur où on fait des crêpes. Et des crêpes, il y en a beaucoup en Bretagne, que va nous conter Sylviane, qui est une Bretonne d'adoption et toujours d'actualité. Voici un reportage sur la Bretagne.
Bonjour Sylviane, bon, nous avons la joie de vous avoir avec nous. Vous allez nous parler de la Bretagne, me semble. C'est bien ça?
Oui, je suis originaire de la Bretagne.
Vous êtes né là-bas?
Ouais, Brest.
Brest.
Le Finistère.
Je connais le Morbihan et Quimper, ça vous dit quelque chose?
Ah oui, très bien, ça me dit d'accord. Quelque chose, oui.
Ouais. Pouvez-vous nous en parler un peu? Qu'est-ce qui se passe comme événement chaque année là-bas? Enfin, pourquoi on y va là-bas?
Parce qu'on y va là-bas, parce qu'il y a les danses bretonnes, il y a les danses folkloriques, manger les crêpes,
les crêpes.
Ouais, galettes bretonnes, il y a le kikapars.
Le quoi?
Le kikapars. C'est quoi? Un genre de pot-au-feu.
Sa spécialité?
Ouais, c'est un pot-au-feu. Et après, on fait cuire le phare dedans le pot-au-feu.
Le phare breton, voilà.
C'est différent le kikapars et le phare breton. C'est pas tout à fait la même chose.
Et pour son air vivifiant, on va en Bretagne.
Ah ouais.
Son arrière-pays.
J'adore la Bretagne, moi.
Et il paraît qu'il y a du bon poisson là-bas.
Le ça poisson, vous... oui, il y a du très bon poisson. Il y a la vieille, il y a de tous les poissons.
Et si je me trompe, pourrais me préciser, là, vous savez, le petit village, là, Eric Duptip de Gaulois s'est trouvé en Bretagne, non? Astérix, tout
en
ça.
En Armorique.
Ah, c'est à côté, non?
Plus le nom. Ils
résistent encore là-bas.
Et ouais, les petits villages existent toujours encore là-bas.
Ok.
Vous avez vécu combien d'années en Bretagne?
J'ai fait toute mon enfance en Bretagne.
Donc vous avez eu l'occasion de faire des fest-noz, par exemple?
Ah oui, j'ai eu l'occasion de faire des fest-noz.
Qu'est-ce les fest-noz?
Un fest-noz, comme son dit non, fest veut dire fête, noz, nuit. Fest-noz, c'est une fête de la nuit.
Ouais.
En fait, en gros, c'est un bal, mais c'est un bal breton. Et on appelle ça, dans la langue bretonne, ça se dit fest-noz. Et le bal de jour, ça s'appelle un fest-dièse.
Je ne connais pas trop la Bretagne, mais quand on me dit Bretagne, moi, directement, je pense à Mano ou à Nolwenn Leroy.
Ah ouais.
Vous connaissez?
Bah oui, je connais. Bah oui. Nolwenn Roy, son père, il est joueur de foot.
Ah, d'accord.
Que mon fils a connu. Parce que mon fils, il fait du foot. Donc, il a connu son père. Parce que ça a été l'entraînement. Ça a été son entraîneur de foot.
D'accord.
Voilà.
Récemment, j'ai eu l'opportunité de voir un film qui s'appelle Le Chant du Loup, qui parle des sous-mariniers qui sont basés à Brest. Mmh. Est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter, je sais pas, la base sous-marine ou d'autres choses de ce genre à Brest, parce que c'est quand même assez réputé pour cette base de sous-marins.
Oui, j'ai eu l'occasion d'aller visiter cette base sous-marine.
J'imagine qu'il y a des phares là-bas.
Alors oui, il y a beaucoup de phares, il y a beaucoup de bateaux. Avant, il y avait les bateaux de guerre qui arrivaient au port de commerce, ça s'appelle comme ça, le port de commerce. Et il y avait beaucoup de bateaux de guerre qui arrivaient. Maintenant, il y a de moins en moins.
Il y a les phares, les gâteaux, les phares aussi.
Ah, il y a le phare aussi
en gâteau. Prononciation, mais c'est pas la même écriture.
Merci Sylviane, de votre éloquence, de votre
gentillesse. Merci.
Brichy.
Oui, maintenant, nous allons vous présenter, comme chaque mois, Christine qui nous parle de la gentillesse. Christine, la gentillesse.
La gentillesse est quelque chose de fragile et de fort à la fois. Mais il ne faut pas trop en abuser, car des fois ça peut éclater. La gentillesse est quelque chose de génial. Quand on a du baume au cœur, c'est notre gentillesse qui parle. Quand on ressent de la tristesse, c'est des pleurs. Et quand il faut aller de l'avant, il faut être aimable et ne pas trahir les gens, en sachant que notre gentillesse peut nous trahir par mégarde. La gentillesse fait partie des principes de la vie. J'espère qu'à l'avenir, ma gentillesse restera au fond de mon cœur et essaiera de ne pas être une éponge. Car ce que je vis en ce moment me perturbe beaucoup. Je voudrais savoir si mon ami va bien. Je lui ai apporté de la gentillesse et elle aussi. Pourquoi es-tu parti en zoo dans ta cage? Ça a la moindre explication. Tu en avais marre et ça se sentait dans tes gestes et tes mouvements depuis que tu avais arrêté de fumer. Tu étais plus speed. Tu me manques et j'espère qu'on se retrouvera autour de ta ensoleillée et qu'on se rappellera de nos bons souvenirs.
Et maintenant, nous allons écouter avant toi une chanson de Vita et Slimane, choisie par Cynthia.
Y'avait pas d'image, y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme. Y'avait pas les fêtes, y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur.
Tu sais, le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour, tu sais la passion. Oui, c'est écrit, c'était dit, oui, c'est la vie. Papa
pris le chemin.
Voilà une très belle chanson et nous sommes toujours de retour dans les studios de Radio Entre-deux-Mers de Pas d'affolement nous voilà pour l'émission 98.4 en compagnie de Jean-Louis Clément, infirmier cadre depuis peu à la retraite. Et je voudrais saluer, donner un petit bonjour à Guillaume, un prompt rétablissement puisqu'il est un peu alité. On lui souhaite, s'il écoute, eh ben, un prompt rétablissement. Tout simplement.
Tu nous manques, Guillaume.
Voilà, il nous manque. Enfin, pas moi, mais il nous manque.
Je vais vous présenter la cuisine de D'Artagnan. Recette choisie par Nathalie. La recette.
Le mousquetaire D'Artagnan, qui fait partie de l'escorte de Louis XIV pour se rendre en Espagne, accueillir sa fiancée. En traversant le sud-ouest, le convoi fait étape à Cadillac, où l'on sert un banquet. En voilà le menu. Entrée. Huîtres fraîches, chevrettes, huile de gratin, alose rôtie à la sauce d'oseille, estogeon à la cendre, l'emploi à l'écuvée, faisan à la broche, perdrix sauce espagnole, ainsi que des prunes confites. Nous sommes transportés au XIVe siècle, au temps où les mousquetaires, souvent des cadets de Gascogne, étaient chargés de la protection des camps. On les voyait aussi sur les champs de bataille. Malgré les progrès de l'art de la guerre, sous les plus sûrs de vos bancs, D'Artagnan mourra lors du siège de Maastricht.
Et maintenant, je vais vous présenter un texte sur Olivier Jacques. Olivier Jacques est né le 29-08-1973. Il est connu pour avoir été champion du monde en 250 en 2000. On le connaît pour son sens de l'attaque et ses nombreuses chutes avec des blessures comme la clavicule et la cheville cassée, qui l'a empêché de courir des Grands Prix. Il a commencé sa carrière en 1993 en participant au championnat d'Europe. Dans la deuxième année, il est vice-champion d'Europe. En 1995, il signe un contrat dans le Team Tech 3 et devient meilleur débutant de l'année. Après 3 ans de galère, il devient champion du monde en 250. En fin d'année, la structure passe en catégorie reine, avec des années suivantes sont décevantes car il court en 2 temps et les autres en 4 temps. Au cours du team, en cours, le team décide de se passer de lui, mais le team Kawa lui propose un nouveau contrat. En 2017, il remporte, qu'il n'a pas perdu son talent et finit deuxième du Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais le reste de l'année n'est pas glorieux, car sur 7 Grands Prix, il chute 3 fois. Il décide d'arrêter sa carrière de pilote. Il reste dans le team et reprend son ancien rôle de responsable de développement de la Kawa. Le numéro fétiche sur lequel il court est le numéro 19. En 2002, il a été fait chevalier de l'Ordre du Mérite.
Voilà, maintenant, je vous enregistre un top 14 dans la journée sur la mêlée. Brive Bapeau, 33 à 26. Castres a perdu 6 avec Racing, 0-37. Clermont a battu, Stade Français 29-15, La Rochelle bat Montpellier 35-30, Lyon a gagné contre Toulon 27-12, Bayonne a perdu devant Agen 22-23, Toulouse bat Bordeaux 22-14. Voilà le classement. Premier Lyon, 10e Bègle, 13e La Rochelle,
quatrième, Racing, cinquième, Toulon, sixième, Toulouse, septième, Clermont, huitième, Montpellier, neuvième, Brive, dixième, Bayonne, onzième, Pau, douzième, Castres, treizième, Agen, quatorzième, Stade Français.
Voilà, on continue la rubrique sportive avec mon chronique sur les sportifs. Aujourd'hui, c'est Carl Lewis, qui est un athlète américain, né le 1er juillet 1961. Il totalise 10 médailles aux Jeux Olympiques, dont 9 en or, et 10 médailles aux championnats du monde, dont 8 en or. Sa mère est une ancienne athlète et tout naturellement, il se dirige vers ce sport. Il commence par se spécialiser au saut en longueur, qui commence à 13 ans. Il se qualifie dans l'équipe américaine pour les Jeux Olympiques de 1980, mais les États-Unis boycottent ces Jeux. C'est en 1983, au championnat du monde d'Helsinki, qu'il se révèle en gagnant la longueur avec un bond de 8,55 m. S'il est battu par Calvin Smith sur 100 mètres, il est vainqueur du 200 et du 4x100. En 1984, c'est l'apothéose. Il égale aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles, Jesse Wells, en gagnant le 100 mètres, le 200, son longueur est 4x100. À partir de 1985, un rival de poids apparaît en la personne du Canadien Ben Johnson, qui gagne le 100 mètres au championnat du monde 1987 à Rome. Puis récidive à Séoul en 1988 aux Jeux Olympiques, mais déclassé pour dopage aux stéroïdes. En 1991, au championnat du monde de Tokyo, un concours d'anthologie a lieu au saut en longueur, où Lewis bat le vieux record du monde de Bimon en atteignant 8,91 m. Mais pour elle, le bat également avec un saut de 8,96 m. En 1992, à Barcelone, encore de l'or aux 4x100 m et en longueur. Puis 4 ans plus tard, en 1996 à Atlanta, une dernière victoire aux 100 longueurs. Il se retire en 1997 et à juste titre, est élu en 1998, sportif du siècle.
Et maintenant, je vais vous présenter l'actualité culturelle par Corinne.
Et maintenant, les infos et la page culturelle. Langon les Carmes. Jeudi 6 février 20h30, L'Iliade, spectacle avec la compagnie à Tire-d'Aile. Dimanche 16 février 15h, La Perse au cœur de l'Iran. Ciné-conférence proposée par Connaissance du Monde, en partenariat avec l'association Les Amis des Carmes. Mardi 18 février, 19h, La Machine d'Anticitaire. Conférence proposée par l'association UTL, Art et Découverte, Vallée du Siron et Proche-Garonne. Intervenant Thibaut Cavalier. Mercredi 19 février, 19h, Bain de Gong. Conférence et séance proposée par Les Amis des Carmes, animé par Richard Cassonnet. Du 19 février au 2 avril, Carnet de voyage, exposition photographique de Nelly Bourdelois. Jeudi 20 février, 20h30, Le bourgeois gentilhomme de Molière spectacle. Et mercredi 26 février, 10h30 et 14h30, Malice Bouclette, spectacle avec les Paps. Capian, château de Potiron, vendredi 7 février de 18h à 22h, atelier cuisine du Japon, organisé par la Maison des Vins de Cadillac. Bazas, au Poliedre, vendredi 7 février 19h, réussite fantastique, soirée. Barsac, château Gravat, samedi 8 février à partir de 14h30, sauternez-vous avec passion. Atelier vin et chocolat. Sauveterre de Guyenne, salle culturelle Simone Veil, samedi 15 février 20h30, Le Bourbier, soirée théâtrale avec le Théâtre des Salinières. Loupiac, salle des fêtes, mercredi 19 février 16h30, Greux, spectacle plus atelier parents-enfants avec la compagnie Silex. Sauterne, samedi 19 et dimanche 20 avril, séjour au zoo de Beauval, proposé par l'association Patrimoine Sauterne. Réservation, Madame Rodier, 06 71 22 68 60.
Cadillac, mairie, salle du conseil, depuis le 15 janvier et jusqu'au 15 février, exposition de poèmes de Yann Etienne. Maison des vins, mercredi 5 février, défaut du vin, atelier dégustation. Centre hospitalier, centre de formation, jeudi 13 février à 14h, la pêche, café rencontre, intervenants, messieurs Liotto, Collet et Papal. Château des Pernons, samedi 22 février au dimanche 6 septembre, exposition Les Chambres des Merveilles. Et mercredi 26 février à 15h, visite théâtrale, infos et réservations au 05 56 62 62 16. Toujours à Cadillac, Cinélux, du 30 janvier au 25 février. Les films à l'affiche. 1917, Les filles du docteur March. Le lion, à couteau tiré. Les misérables, Les enfants du temps. La Lonora, Joker, Marche avec les loups. Séjour avec dans les monts Fuchu. Le photographe, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Scandale, Adam, Le prince oublié. L'extraordinaire voyage de Marona, La fille au bracelet, Le voyage du docteur Doolittle. Les séances spéciales. Père et impair, La Sorciera, Sam Sam, Les Vétos, Cuban New York, Accoucher autrement, Je suis là, Le potager de mon grand-père et L'équipe de secours. Pour toute info supplémentaire, 05 56 62 13 13. Mail lecinelux@wanadoo.fr ou www.cinelux.fr.
Pas d'affolement. Nous voilà. Pas d'affolement.
Nous sommes bien sur 98.4 Radio Entre-deux-Mers à l'émission Pas d'affolement, nous voilà. Et nous avons aujourd'hui quelqu'un de très important pour nous, monsieur Jean-Louis Clément, puisqu'il a fait partie de la base de la radio. Houssine.
Quels sont vos projets?
Mes projets, c'est d'essayer de vieillir en bonne santé, de partager du temps avec ma petite fille. Et puis après, j'ai plein de projets culturel, me remettre à la peinture, apprendre la musique, des projets associatifs comme je disais tout à l'heure, et puis des projets de retour dans la nature. J'adore la marche et le vélo, donc voilà, si la santé me permet, j'aurai de quoi meubler mon temps.
C'est bien. On vous le souhaite.
Merci beaucoup.
Quel conseil pourriez-vous donner à une infirmière pour être cadre?
Une infirmière pour être cadre, qu'elle ait beaucoup d'humilité. Qu'elle soit en capacité parfois de résister et qu'elle soit bienveillante. Et si elle s'est construite sur des valeurs humanistes, qu'elle les conserve.
Alors pour finir et pour conclure, vous êtes à l'origine et au soutien de la radio. Et nous sommes à la 50e émission qui représente 5 ans.
En février, 5 ans.
5 ans le mois prochain. Et qu'en pensez-vous, tout simplement?
Je trouve que c'est une aventure vraiment formidable. Et je remercie encore Mme Edith Pérez-Lacour d'en être à l'origine. Et Francis aussi, contre vents et marées, de porter, d'accompagner ce projet d'une manière très régulière, en donnant de lui aussi. Et puis franchement, là, d'abord, je suis ravi de l'invitation que vous m'avez faite. Et je m'aperçois, là, c'est vraiment merveilleux pour moi, parce que vous êtes, vous êtes professionnel. Il y a vraiment de la complicité.
Je ne sais pas s'il ne va pas sortir. Il ne va pas pouvoir sortir du studio, mais ce n'est pas grave.
Il y a vraiment une grande complicité. Et puis on voit qu'il y a beaucoup d'humanité. J'adore ça.
Merci. Bravo. Jean-Louis.
Merci beaucoup.
Merci Jean-Louis.
Radio Entre-deux-Mers, nous rendons l'antenne. Au revoir, au revoir, au revoir.
98.4, toutes les semaines.
Pas d'affolement.
Au revoir.
Pas d'affolement, nous voilà.